J'imagine que la plupart des gens veulent vivre éternellement. Je ferais mieux de ne pas vous demander de lever la main, car il se pourrait qu'il y en ait parmi nous qui ne le souhaitent pas. Toujours est-il que la plupart des gens veulent vivre éternellement. Nous ne le disons pas toujours de façon explicite à nos amis et associés, mais tant que nous sommes en bonne santé et que nous menons une vie agréable, nous n'en arriverons pas au point où nous dirons « Bon, j'en ai assez de la vie. Je pense que je ne serais pas fâché de quitter ce monde. » Cela dit, je sais qu'il y a des gens qui sont déprimés, et nous ne parlons pas de ceux-là. Non, je parle ici de l'individu moyen. Je trouve cela beau de voir des gens qui vivent même au-delà de 80 ans, et qui, s'ils sont en bonne santé, ont envie de continuer. J'en ai même connu qui étaient en mauvaise santé, qui savaient qu'ils allaient mourir, mais qui voulaient néanmoins s'accrocher à la vie. On dirait que cela fait partie de notre condition humaine. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre à jamais. Encore que certains n'en soient pas si sûrs, car ils s'imaginent dans leur fort intérieur qu'à un moment donné cela pourrait devenir ennuyeux. Peut-être y avez-vous déjà réfléchi. Peut-être que cette pensée vous a effleuré l'esprit. En effet, que ferons-nous après 1 milliard d'années? Qu'a fait le Christ? Et qu'a fait Dieu le Père il y a 1 milliard, voire 10 milliards d'années? Quant à nous, que ferons-nous à l'avenir? Je pense qu'il s'agit là d'une chose que nous devons remettre entre les mains de Dieu. Dieu sait parfaitement ce qu'il fait, et même s'il y a beaucoup d'inconnus en ce qui a trait à la vie éternelle, soyez assurés qu'il a planifié tout cela, et nous allons trouver que cela en valait la peine. Les plaisirs qui nous attendent ne seront pas du tout ceux que ce monde considère comme importants. Ce seront des plaisirs spirituels propres à la famille divine. Mais lorsque nous sommes jeunes, nous ne pensons pas que cette vie aura une fin, même si nous savons que nous ne vivrons pas éternellement. Oui, nous savons que nous vieillirons un jour, mais quand nous sommes jeunes, c'est tellement loin dans le futur, pas vrai? Donc nous en sommes conscients, mais c'est tellement, tellement loin. Et puis un jour, nous nous réveillons et nous commençons à parler comme nos parents. Les enfants grandissent si vite. Où sont passées toutes ces années? Et nous commençons à réaliser que la vie n'est, après tout, pas aussi longue que nous l'avions pensé. Qu'en est-il de vous? Voulez-vous vivre éternellement? À moins que vous ne fassiez partie de ceux qui préféreraient être morts pour toujours, privés de mémoire et de toute forme de pensée. C'est ce à quoi Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 fait allusion. Voyons-le rapidement, même si vous n'ignorez pas ce que dit ce verset bien connu. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. À moins que Dieu ne nous ressuscite, nous ne conserverons ni pensée, ni mémoire de ce que nous aurons vécu. Je crois l'avoir dit une fois lors d'une de mes émissions télévisées. Vous pourriez vivre jusqu'à l'âge de 1000 ans et même trouver un remède contre le cancer, mais à quoi cela vous servira-t-il une fois que vous aurez disparu? Vous n'aurez alors plus aucune connaissance de ce qui se passe. Vous serez alors ignorant de ce qui sera arrivé à vos enfants, à vos petits-enfants et à ceux qui les suivront. Vous n'aurez pas non plus connaissance de ce qui sera arrivé à la terre. De fait, si Dieu n'existait pas, le soleil finirait par s'éteindre. À moins que, et c'est plus probable encore, nous ne fassions sauter la planète avec ses occupants bien avant. Notez à ce propos ce que dit Psaume 146, versets 3 et 4. Psaume 146, versets 3 et 4. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Ainsi, ne comptez pas sur l'homme pour vous sauver. » Il est ici clairement question de la vie après la mort. Entre parenthèses, l'ancienne version King James mentionne ici que leurs pensées périssent. Il n'y a donc pas de vie après la mort, dans le sens où les gens l'entendent. Ils pensent qu'ils ne mourront pas, mais ils se trompent. De fait, nous allons tous mourir, et c'est pourquoi il faudra que Dieu nous ressuscite. Quel est le chemin vers la vie éternelle? Comment y arriver? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu exige de vous pour que vous ayez la vie éternelle? Pouvez-vous mettre par écrit ce qui est exigé de vous? Et puis, il y a aussi une autre question. Êtes-vous un de ces chrétiens qui tiennent une liste? C'est d'ailleurs le titre de ce sermon. Êtes-vous un chrétien qui tient une liste? Pouvez-vous dresser une liste de toutes les choses que vous devez faire pour avoir la vie éternelle? Nous sommes ici confrontés à un petit point épineux. Voyons-le dans Matthieu chapitre 19 au verset 16, où il est dit, Matthieu 19, verset 16, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et nous pensons tous que nous connaissons la réponse à cette question. Verset 17, « Il, Jésus, lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Vous le savez, vous aussi. Et il semble que ce jeune homme le savait également. Je pourrais alors me taire et m'asseoir, parce que tous, nous connaissons la réponse. Si vous voulez entrer dans la vie, observez les commandements. Mais notez la suite de sa discussion avec Jésus. Le jeune homme lui demande ensuite, quels sont ces commandements? Ce à quoi Jésus lui répond, en énumérant plusieurs des 10 commandements. Finalement, au verset 20, le jeune homme lui dit qu'il observait toutes ces choses depuis sa jeunesse. Voyons-le. Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Nous avons parmi nous des gens qui ont grandi dans l'Église. Beaucoup de jeunes ici, et même des moins jeunes qui ont grandi dans l'Église. Peut-être que vous n'êtes pas âgé de 80 ou 90 ans, mais certains d'entre vous qui ont 30, 40, voire 50 ans, ont grandi dans l'Église et ont connu les commandements toute leur vie. Et, au moins selon la lettre de la loi, vous les avez observés. Ainsi, vous n'avez tué personne, et il y a fort à parier que vous n'avez pas commis d'adultère ou de fornication. De plus, vous n'avez pas littéralement dévalisé une banque et volé quelqu'un de cette manière. Nous savons évidemment qu'observer l'esprit de la loi, c'est une autre affaire. Mais, au moins pour ce qui est de l'observer selon la lettre, il y a beaucoup de gens ici qui pourraient probablement prétendre qu'ils se sont efforcés de le faire, même s'ils ont parfois manqué leur objectif dans certains domaines. Et puis, nous avons le sabbat, nous avons les jours saints, nous savons que nous devrions manger que des viandes pures, et nous nous sommes efforcés de le faire. Souvenez-vous de ce que Pierre avait dit dans Actes chapitre 10, au verset 14. « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Je ne suis pas sûr que nous qui vivons dans le monde actuel puissions prétendre cela. Peut-être que cela valait pour l'État juif d'alors, là où Christ et l'apôtre Pierre avaient vécu. En ce qui nous concerne, il va parfois nous arriver de manger des choses impures, sans que nous en ayons connaissance. Au moins, nous n'avions pas alors agi intentionnellement. C'est que nous sommes au courant des lois au sujet de ce qui est pur ou impur. Nous pouvons citer Lévitique 11 et Deutéronome chapitre 14, et nous pourrions vous dire ce qui permet de distinguer les aliments qui sont propres à la consommation et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, dans le cas d'un animal, il doit avoir des sabots qui se divisent, et il doit ruminer. Les poissons, quant à eux, doivent avoir des écailles et des nageoires. Nous reconnaissons donc toutes ces choses, et nous nous en sortons plutôt bien à cet égard. L'objectif de notre vie, c'est de rechercher le royaume de Dieu, comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il est ici question de toutes ces choses physiques que les gens recherchent. La célébrité, la fortune, le statut social, le bonheur à travers ces choses que l'argent peut nous procurer. Oui, on voudra faire beaucoup de choses. On voudra avoir beaucoup de choses. Ce sont là les objectifs de la personne moyenne. Mais pour nous, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Peut-être que, dans une certaine mesure, nous tenons aussi à certaines de ces choses. Ainsi, nous voudrons certainement avoir assez d'argent pour vivre à l'aise et sans nous faire harceler par les créanciers. Oh, nous pouvons avoir la célébrité, la fortune et un statut social enviable. Mais, comme il est dit dans Luc chapitre 9, verset 25, Luc 9, verset 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Donc, si nous avons tous les biens de ce monde et que nous sommes bénis d'avoir une longue vie en santé, est-ce là tout ce qui importe? Vous savez, récemment, nous avons donné une conférence en Floride, une de ces conférences du monde de demain, et parmi l'assistance se trouvait une personne âgée de 108 ans, et manifestement en assez bonne santé pour être là, tout de même remarquable. Mais, en fin de compte, à quoi cela sert-il si nous n'avons pas le bon objectif? La plupart d'entre nous le reconnaissent, et c'est pourquoi ils s'efforcent d'atteindre le royaume de Dieu. Par ailleurs, Jean chapitre 4 nous informe d'une mission qui nous est confiée, et il ne s'agit pas ici de la carrière que nous devons poursuivre pour subvenir à nos besoins. Voyons-le. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Puis au verset 35 et 36, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Intéressant ce qui est dit là, car cela nous sépare même de ceux qui vont observer le sabbat et les jours saints. Nous avons effectivement une passion pour le travail qui nous a été confié. Il est certain qu'il en était de même en ce qui concerne M. Herbert Armstrong, ainsi que Dr. Roderick Meredith, ce dernier ayant dû remettre l'Église sur la bonne voie après l'apostasie de l'Église universelle, qui eut lieu peu après la mort de M. Armstrong. C'est ce qu'il a fait, d'abord dans le cadre de l'Église globale de Dieu, puis par l'entremise de l'Église du Dieu vivant, qui a pris la relève. Et c'est ainsi que, peu après l'apostasie de l'Église universelle, dont il s'était à présent détaché, Dr. Meredith s'est remis quelques mois plus tard à produire à nouveau des émissions radiophoniques. De même, en l'espace de quelques mois à peine, il avait relancé un magazine, et, peu après, nous passions à nouveau à la télévision. Et nous l'avons soutenu dans tout cela, comme cela nous est demandé. Et j'espère que nous le faisons tous de notre mieux par nos prières, nos dîmes et nos offrandes. Et vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous donnons des dîmes et des offrandes, c'est justement pour accomplir cette œuvre. Oh, je sais qu'il y a ceux qui prétendent que l'œuvre avait déjà été accomplie du temps de M. Armstrong. D'autres vont dire, « Oui, nous voulons bien participer à l'œuvre, mais occupons-nous d'abord de satisfaire aux besoins de notre propre famille. » Ils ne le disent peut-être pas en ces mots, mais c'est finalement ce qu'ils pensent. Ainsi, lorsque nous considérons la situation dans son ensemble, nous reconnaissons qu'il y a des choses que nous devrions faire. Nous pourrions bien sûr en dresser une liste. Observer les commandements, y compris le sabbat et les jours saints, observer les lois sur les viandes pures et impures, payer fidèlement la dîme. Nous savons tout cela. Ce sont là des choses que nous pourrions cocher sur une liste. Nous pourrions aussi aller plus loin. Ainsi, pour ceux qui ont grandi dans l'Église, ce serait de nous faire baptiser un jour. Nous pourrions aussi y inclure des tâches quotidiennes comme faire ma prière et étudier la parole de Dieu. On voudra également vérifier s'il n'en a pas oublié de verser la dîme ce mois-ci, des choses de ce genre. En tant qu'être humain, nous faisons souvent appel à de telles listes. Je sais qu'au début de cette semaine, j'avais une longue liste de choses à faire parce que je savais que j'allais être absent la semaine prochaine pour participer à la convention annuelle des diffuseurs d'émissions religieuses à Orlando, en Floride, et que je ne serai pas de retour jusqu'après la Pentecôte. Heureusement, il y a certains événements qui jouissent d'une certaine flexibilité. Ils ont une date limite, mais vous savez que vous pouvez vous en écarter un peu. Cela dit, il y en a tout de même dont l'agenda ne souffre pas de délai, comme cette conférence ministérielle que nous avions organisée. Elle devait débuter à 15h, et nous avons effectivement pu respecter l'horaire établi. C'était de rigueur. Il faut être là et il faut être prêt. C'est pareil pour une émission à diffuser ou un forum pour les élèves de l'éducation vivante, ce qui a lieu à 11h30 le mardi. Pour certaines, il faut être à l'heure. Pour d'autres, cela est moins impératif, comme par exemple tondre ma pelouse au début et à la fin de la semaine, afin que ma femme n'ait pas à le faire à notre retour de la convention d'Orlando. Il y a donc ces listes que nous dressons, et c'est une bonne chose, ne serait-ce que pour nous assurer que nous n'avons rien oublié d'essentiel. Et il peut arriver qu'on ait à ajouter quelque chose à une liste établie, car on se rend parfois compte que quelque chose nous avait échappé. Et cela ne nous fait-il pas plaisir de pouvoir rayer un élément de notre liste lorsqu'il est achevé? Avoir une liste peut cependant présenter quelques dangers. Il pourrait en être ainsi en ce qui concerne une liste à propos d'idées chrétiennes. Je parle ici d'idées vraiment chrétiennes. Cela pourrait en effet être bon ou mauvais. Dieu nous met en garde contre une approche du christianisme fondée sur une telle liste. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous ne devrions jamais avoir de liste, car, selon moi, il est utile d'avoir de telles listes. Par contre, pour ce qui est de la prière ou de l'étude de la Bible, avons-nous vraiment besoin d'une liste? Ne devrions-nous pas, entre-temps, en avoir fait une habitude? Cependant, même là, nous devons parfois faire preuve de prudence. Voyons à ce propos Luc chapitre 18, et nous commencerons au verset 10, un passage très célèbre. Luc chapitre 18, versets 10 à 12. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Cela dit, était-ce une bonne chose qu'il jeûne? Je ne sais pas s'il jeûnait deux fois par semaine, mais était-ce une bonne chose qu'il jeûne? Absolument. Était-ce une bonne chose qu'il ne soit ni extorqueur, ni injuste, ni adultère? Était-ce une bonne chose qu'il paye la dîme de tout ce qu'il possédait? Bien sûr, ces choses sont bonnes. Ce sont des choses que nous devrions faire. Mais on note un problème ici, pas vrai? C'est que, tout en faisant ces choses, l'homme se pensait bon. Or, parfois, lorsqu'on pense ainsi, ce n'est pas toujours le cas. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 23, où il est question de personnes qui avaient dressé leur liste de choses à faire. Nous ne prendrons pas le temps de lire tout le chapitre qui mentionne cette réprimande cinglante à l'endroit des scribes et des pharisiens. Contentons-nous de n'en lire que le verset 23. Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, si on n'est pas sur ses gardes, on peut donc faire les bonnes choses et néanmoins se faire traiter d'hypocrite. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, des petites graines et des feuilles qu'ils comptaient soigneusement, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Notez cette mention de la justice, de la miséricorde et de la foi. En un sens, ces éléments vont au-delà des 10 commandements. On pourrait dire que les 10 commandements les incluent de façon implicite. Et c'est vrai. Mais, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de commandements qui disent « tu auras la foi », bien qu'on nous exhorte, ailleurs, de vivre par la foi. On pourrait en dire autant à propos de la miséricorde et de la justice. Cela ne fait pas non plus partie des 10 commandements, sinon dans un sens plus large, lorsqu'on s'efforce de vivre selon l'esprit et selon l'intention de la loi, des 10 commandements. Nous avons une magnifique brochure de Dr. Meredith sur le sujet des 10 commandements. Si vous ne l'avez pas étudiée récemment, il serait bon de vous la rappeler en mémoire, car elle parle de l'intention de la loi, de ce que cela signifie de l'observer selon l'esprit. Ainsi, lorsqu'il y est question de la dîme, on apprend que c'est voler Dieu lorsqu'on refuse de la payer, et, dans un sens, on comprend que ce refus s'inscrit dans le cadre de l'observance des 10 commandements. Mais tout en s'acquittant de choses faciles à comprendre et à faire, n'oublions pas qu'il y a encore des choses plus importantes aux yeux de Dieu, à savoir la justice, la miséricorde et la foi. Donc, la dîme est importante, nous devons la payer, mais nous ne devons pas négliger d'autres choses. Passons maintenant à Philippiens chapitre 3, et je commencerai au verset 1. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Ces choses que je vous écris vous garantiront donc la sécurité. Puis il leur donne quelques avertissements, disant, verset 2, prenez garde aux chiens. Notez qu'il ne parle pas ici de chiens physiques. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il veut parler des Juifs qui prônent la circoncision et les œuvres de la loi, toutes ces choses physiques auxquelles ils devaient se plier. Et il les met en garde contre cela. Versets 3 et 4. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Puis il étale la liste de ses acquis personnels, ajoutant, versets 5 à 7, « Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. » Il dit donc, « J'ai fait toutes ces choses. J'ai été circoncis le huitième jour. J'étais juif. J'étais de la lignée de Benjamin, même si j'étais aussi de la maison de Judas. » Puis il poursuit, disant, « Je puis tenir tête à n'importe qui quand il s'agit d'être juste ou religieux. J'étais zélé, j'ai persécuté l'Église, j'ai persécuté ceux qui, à mon avis, allaient dans la mauvaise direction. » Mais il s'est rendu compte que ce qui était pour lui un gain, il l'avait en quelque sorte perdu par rapport à Christ. Verset 8. « Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, c'est-à-dire avec la confiance en ma capacité d'observer la loi, et il se réfère ici à l'ensemble de la loi. Nous savons bien sûr que nous ne pouvons pas observer parfaitement les 10 commandements, et que si nous les enfreignons, ne serait-ce qu'une fois, nous sommes passibles de la peine de mort. De plus, même si nous pouvions parfaitement observer la loi à partir de ce jour, cela n'effacerait pas notre violation antérieure de la loi, ce qui nous attirerait la peine de mort. Nous avons donc besoin de Jésus-Christ, de son sang versé pour nous. À nouveau, verset 9, « Et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Versets 10 et 11, « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » En d'autres termes, en mettant à mort le vieil homme. C'est ce que nous faisons lors de notre baptême. C'est la phase initiale par laquelle nous exprimons notre désir de changer notre façon de vivre, de vouloir mortifier les actions du corps. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul nous dit donc ici de nous méfier de la circoncision, de l'approche adoptée par les Juifs de son époque, ce qui vaut tout autant aujourd'hui. Nous lisons que Christ était constamment en conflit avec eux, ou plutôt, qu'ils étaient sans cesse en conflit avec lui à propos de la façon dont lui observait le sabbat. Christ n'a donc pas supprimé le sabbat. Ne disait-il pas qu'il était seigneur du sabbat? Évidemment, c'est lui qui nous a donné le sabbat. C'est lui qui l'a sanctifié en se reposant ce jour-là. Comment pourrait-il être le seigneur de quelque chose qui n'existe pas? Le sabbat est donc important. Les jours saints sont importants. Mais les Juifs ont introduit toutes ces restrictions à propos de ce jour et de la façon dont ils pensaient qu'il devait être observé. Et ils ont abusé de ce que Dieu leur avait donné. Ils étaient fiers de pouvoir cocher leur liste de choses à faire en se disant « J'ai observé le sabbat, j'ai payé ma dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, j'ai fait toutes ces choses. » Évidemment, toutes ces choses sont justes et bonnes à faire, mais si nous pensons que ce sont ces choses qui vont à elles seules nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, nous nous trompons. Nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Nous avons besoin du pardon qui nous vient de Jésus-Christ et du sang qu'il a versé pour nous. Il est intéressant de noter que nous ne passons généralement pas beaucoup de temps dans l'Épître aux Galates. Et lorsque nous le faisons, c'est plutôt pour souligner ce qu'elle ne dit pas, plutôt que ce qu'elle dit. Nous allons donc maintenant nous pencher sur certaines choses qui y sont mentionnées, notamment au chapitre 2, où nous commencerons au verset 15 et 16. Galates, chapitre 2, versets 15 et 16. Nous, nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul aborde ici le thème des œuvres de la loi, ergon dans le grec. Il est parfois très difficile de comprendre l'Épître aux Galates, en partie parce qu'il y est parfois question de ces œuvres de la loi, de ces choses physiques contenues dans la loi, notamment de la circoncision, et de tout ce que la circoncision impliquait. C'est intéressant, mais à un moment donné, à l'époque de la Global Church of God, dont est issue l'Église du Dieu vivant, nous avions publié un article dans le Global Church News, un article écrit en 1995 par M. John Le Guin et M. Carl McNair, un article qui faisait suite à un autre article qui avait été publié dans la revue Biblical Archaeology Review en novembre-décembre 1994, à l'époque même où l'Église universelle, la Worldwide Church of God, révélait son hérésie au grand jour. À noter que l'article de la Biblical Archaeology Review traitait des œuvres de la loi et mentionnait une découverte récente de l'archéologie, à savoir qu'il y avait ce terme hébreu, utilisé par Paul, pour décrire les œuvres de la loi, un terme qui pouvait donner lieu à près de 20 stipulations différentes quant à ce qu'il implique de la part des adeptes de la foi. Nous avons donc réagi à cela en publiant cet article de M. John Le Guin et de M. Carl McNair quelques mois plus tard, au début de 1995. Nous voulions ainsi aborder le sujet auquel Paul pensait probablement en parlant des œuvres de la loi. Cependant, il nous faut bien comprendre que nous ne pourrons pas être sauvés simplement en observant la loi, déjà parce que nous avons tous péché, nous avons tous enfreint la loi, et nous parlons bien sûr des 10 commandements. Oui, nous avons tous enfreint cette loi, et nous avons donc maintenant besoin d'une justification. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ, car même si nous observions parfaitement la loi à partir d'aujourd'hui, cela ne pourrait pas défaire ce que nous avons fait hier. Mais cela signifie-t-il, comme le pensent les gens, que la loi est supprimée? Bien sûr que non, et c'est ce que Paul souligne au verset 17. Voyons-le. Galates, chapitre 2, verset 17. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous voulons que nos péchés antérieurs soient pardonnés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, en violant la loi de Dieu dans le futur, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, autrement dit, si je ressuscite le vieil homme que j'avais fait mourir, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Nous voilà rendus au verset favori de Dr. Meredith. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme est mis à mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ou mieux, dans la foi du Fils de Dieu, c'est-à-dire la foi de Jésus-Christ en nous, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. À quoi est-ce que je veux en venir ici? Eh bien, à ceci, à savoir que la loi est certainement importante pour nous. Les lois sur les viandes pures et impures sont importantes pour nous. Si nous ne faisons pas ces choses, nous ne sommes même pas rendus à la case départ. Le baptême est absolument essentiel. De même la prière, l'étude, la méditation et le jeûne. Toutes ces choses sont bonnes et justes, et il n'est pas nécessairement mauvais de tenir une liste de ces choses à faire dans la journée, quoiqu'il sera encore mieux de faire en sorte que ces choses fassent partie intégrante de notre vie. Mais il ne faudrait pas penser qu'en pratiquant ces choses de façon routinière, nous avons accompli notre devoir, car nous nous tromperions nous-mêmes. Notez à cet effet ce qu'en dit Galates chapitre 3, au verset 5 à 7. Galates 3, verset 5 à 7. « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, par la circoncision, par diverses autres œuvres, ou par la prédication de la foi, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice? » Nous savons qu'Abraham a observé les commandements, les statuts et les lois de Dieu. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 26, verset 5. Oui, nous savons qu'il a fait ces choses, mais remarquez que cela va au-delà de la pratique des commandements, puisque nous lisons ensuite au verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous le faisons parce que nous avons la foi que la voie de Dieu est la bonne. Je sais qu'il nous est difficile d'agir de la sorte si nous n'avons pas la foi, mais si nous avons grandi dans l'Église, c'est tout simplement notre mode de vie. Combien de personnes ont grandi dans le catholicisme, le protestantisme ou le bouddhisme pour ensuite adopter ce mode de vie, parce que c'est ainsi qu'elles vivent, qu'elles ont grandi. Mais avons-nous vraiment une foi profonde et durable en Dieu le Père et en Jésus-Christ, et leur faisons-nous confiance en toutes choses? Vous savez, les enfants d'Israël se sont comportés d'une certaine manière, du moins jusqu'à ce que Dieu les soumette à certaines épreuves. Justement, le commentaire de cette semaine par M. Roger Meyer porte sur les tests. Lorsque nous testons le micro, c'est ce que nous faisons. Nous répétons alors « test 1, 2, 3 ». Dans son commentaire, M. Meyer souligne comment Dieu nous teste. Oui, Dieu a testé Israël, et Dieu nous teste également. Allons-nous revenir à nos propres façons de faire les choses, ou allons-nous faire confiance à Dieu? L'apôtre Jacques aborde ce problème, et il est un fait que notre nature humaine nous amène naturellement à penser que nous sommes justes dans ce que nous faisons, tout en nous imaginant que nous n'avons après tout rien à faire, car tout a été fait pour nous. Il est vrai que la plupart d'entre nous pencheront probablement du côté de l'obéissance à Dieu, ce qui est juste et bon, mais peut-être que nous irons trop loin dans cette voie, contrairement au monde protestant, qui pense généralement que nous n'avons pas à faire quoi que ce soit. Je ne voudrais pas y passer trop de temps, mais lisons au moins ces quelques versets dans Jacques chapitre 2, versets 20 à 22, où il est dit, Jacques chapitre 2, versets 20 à 22, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Cela dit, Dieu ne vous a pas demandé de sacrifier votre fils, et si vous entendiez une voix qui vous dirait cela, eh bien, n'y prêtez pas attention, parce que Dieu ne vous demandera pas pareille chose, je puis vous l'assurer. Il est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes émotionnels, et qui pourraient en venir à des idées folles comme celle-là. Non, nous avons ici un événement unique, un événement qui devait préfigurer ce que Dieu le Père allait faire avec son Fils. Notez cependant que Dieu a empêché Abraham d'accomplir la chose, et ce n'est pas parce qu'Abraham manquait de foi pour l'accomplir. Il ne s'agissait pas ici de l'un des 10 commandements, ni de la loi à propos des viandes pures et impures. Ici, Dieu lui disait de faire quelque chose, un événement unique, pour lequel Dieu le testait, afin de voir s'il serait le père des fidèles, ce qu'il est bien sûr. Nous voyons ici ces manœuvres de la nature humaine qui cherchent à aller vers un extrême ou l'autre, pour s'efforcer de se frayer un chemin vers le royaume de Dieu, à moins qu'elle ne s'imagine qu'elle n'a pas vraiment besoin d'en faire autant, disant « Non, ce n'est pas si important de payer ma dîme, ce n'est pas si grave si je mange un peu de porc, ou si je fais ceci ou cela. » Je ne pense pas que la plupart d'entre nous aillent jusqu'à cet extrême, mais certains le font. Alors, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Car c'est vraiment de cela dont il s'agit. Oui, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Eh bien, voyons ce que Dieu nous répond dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Il y a donc là un certain nombre de choses que nous pourrions cocher dans notre liste, si nous en maintenions une, encore que nous n'insistions pas là-dessus à ce stade. Notez cependant que le verset 13 dit de garder ses commandements et ses lois. Mais, avant même cela, on nous recommande de craindre l'Éternel notre Dieu, d'avoir une crainte et un respect profond et durable pour Dieu, sachant qu'il est en charge, de marcher dans toutes ses voies et de l'aimer. Nous savons que l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements, mais il faut aller plus loin, n'est-ce pas? Pour vraiment aimer Dieu, il faut aller au-delà du simple fait de lui être agréable. Il nous faut apprendre à le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Vous souvenez-vous de ce roi qui obéissait à Dieu, mais qui n'avait pas vraiment le cœur à l'ouvrage? Je viens tout juste d'y penser, sinon j'aurais entrepris des recherches à ce sujet. En fin de compte, nous pouvons faire les choses que nous avons à faire parce que nous devons les faire. Ou nous pouvons les faire parce que nous voulons exprimer à Dieu tout notre amour en adoptant pleinement sa voie de vivre. Notez Michée chapitre 6, un autre endroit où on nous dit ce qui est exigé de nous. Michée 6, versets 6 et 7. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Vous voyez à nouveau apparaître cette notion de justification. Ce qui est exprimé ici, c'est « Oui, j'ai péché. Que vais-je faire pour revenir dans les bonnes grâces de Dieu? Sera-t-il satisfait de tous ces sacrifices? » Eh bien, vous savez que Dieu avait jadis institué cette pratique d'offrir des sacrifices. Il n'était donc pas inapproprié de pratiquer ces choses. Ce qu'il faut plutôt considérer, c'est avec quelle attitude d'esprit nous le faisons. Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous pouvons observer les 10 commandements, nous pouvons observer les lois, tout en manquant d'humilité, de justice ou de miséricorde. Ainsi, nous pouvons ne pas être miséricordieux, même si, en notre fort intérieur, nous savons pertinemment que c'est conforme à l'esprit et à l'intention des lois de Dieu. On va donc parfois se concentrer un peu trop sur le respect des commandements, mais, simultanément, on oubliera d'autres éléments, tels que la justice, la miséricorde et la foi, ou, comme il est mentionné ici, la justice, la miséricorde et l'humilité. Tournons-nous à présent vers Ésaïe chapitre 58, un passage des Écritures que nous lisons fréquemment le jour des expiations. il y est question d'une certaine attitude d'esprit et de jeûne. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Nous ne jeûnons pas tous les jours, mais il est dit qu'ils me cherchent tous les jours. Cela va donc au-delà du jeûne dans ce sens. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous jeûnez, mais simultanément, vous violez une autre de mes lois, celle qui dit de ne pas exploiter vos ouvriers, de ne pas les voler. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Est-ce là ce que je veux, vous voir malheureux? Est-ce cela que je vous demande quand je vous dis de jeûner? Courbez la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, rends libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà ce qu'il nous faut faire un jour de jeûne. Si nous agissons ainsi, le verset 8 dit, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » C'est donc une question d'attitude. C'est une question d'approche. Le faisons-nous parce que nous devons le faire et parce que nous pensons que nous faisons quelque chose de merveilleux pour Dieu et qu'il nous doit donc quelque récompense? Ou bien nous livrons-nous à une étude introspective de notre cœur, de notre âme et de notre esprit pour déterminer ce qui ne va pas? Comment nous pourrions changer pour nous rapprocher de Dieu afin que nos prières soient entendues par lui? C'est donc une question d'attitude et d'approche, n'est-ce pas? Il ne s'agit donc pas simplement de parcourir notre liste et de cocher des cases tout en disant « Bon, cela je l'ai fait, j'ai prié ce matin, j'ai étudié ce matin et maintenant je jeûne. Dieu doit donc maintenant en tenir compte et m'accorder ce que j'attends de lui. » Il y a bien des années, à la fête, j'avais entendu un merveilleux sermon. C'était dans l'Église universelle, du temps de M. Armstrong. À mes yeux, c'était le meilleur sermon de toute la fête. Un des points qui m'avait particulièrement marqué se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 22. Voyons-le. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pourquoi recevons-nous de Dieu les choses que nous demandons? Parce que, tout d'abord, nous gardons ses commandements. Nous gardons les commandements, ses commandements. À la lueur de ce verset, comment certains peuvent-ils alors prétendre que nous ne sommes plus maintenant tenus d'observer les commandements? De fait, c'est là le strict minimum qui est exigé de nous. Notez aussi que, dans la version originelle, il est dit que c'est une chose que nous devons continuer de faire, parce que c'est agréable à ses yeux, aux yeux de Dieu. On pourrait alors se demander ce qui, au-delà des commandements, est agréable aux yeux de Dieu. Nous savons que David était un homme selon le cœur de Dieu, et qu'il a écrit beaucoup de musique. Cela signifie-t-il que c'est ce que vous devriez faire? Et qu'en est-il de la poésie? Est-ce là ce qui lui plairait? Je suppose que certaines personnes pourraient exprimer leur amour pour Dieu de cette manière. Mais j'aimerais qu'on se reporte à Matthieu chapitre 19 pour faire ressortir un principe que j'ai essayé de faire passer ici ces derniers temps. Là, dans Matthieu chapitre 19, au verset 3, nous lisons Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent, Christ, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il disait cela en ayant à l'esprit un passage de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 24, versets 1 et 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, reste à savoir de quoi il s'agissait, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, etc. Le fait est que Moïse avait, de son temps, autorisé l'écriture d'un acte de divorce, quelque chose dont le contenu semblait assez vague en ce qui a trait à la cause de ce divorce. Il aurait pu s'agir de n'importe quel type d'impureté, de l'esprit, du corps, ou peu importe, du moment qu'il ne trouvait pas cette femme comme il l'espérait. Il pouvait alors lui écrire une lettre de divorce. Voilà donc ces pharisiens, dont parle Matthieu 19, verset 3, qui demandent à Christ quelles sont les raisons légitimes pour lesquelles un homme peut répudier sa femme. Cela indique que cette question était controversée à l'époque. Étant donné que les Juifs écrivaient tout et précisaient tout dans leur liste de choses à faire et à ne pas faire, je suppose qu'il y avait des raisons pour lesquelles ils pouvaient divorcer et d'autres pour lesquelles ils ne pouvaient peut-être pas le faire. Bon, je sais que tout ceci n'est que spéculation, mais il doit sûrement y avoir ici quelque chose de controversé. Sinon, il n'aurait pas interrogé Jésus à ce sujet. Comment Jésus a-t-il répondu à la question? C'est parce que la vraie question qu'il posait était la suivante. Qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'a fait Jésus? Eh bien, il n'est pas revenu à Deutéronome chapitre 24. Non, il est remonté jusqu'à la Genèse, à ce qui était initialement l'intention et le but de Dieu, car, pour une nation charnelle, Dieu avait permis beaucoup de choses. Ainsi, il avait permis aux hommes d'avoir plus d'une femme. Mais, était-ce là l'intention de Dieu au tout début? Il y a encore des gens qui discutent de ce point, à savoir s'il est acceptable d'avoir plus d'une femme. Je me souviens de cette région où j'ai vécu, et où il y avait une famille qui discutait assez régulièrement de cela, à savoir s'il est acceptable d'avoir plus d'une femme. Eh bien non. Alors, pourquoi vouloir discuter de ce point? C'était là un sujet de discorde. Vous savez, il a dû y avoir quelque chose ici qui a poussé les pharisiens à demander « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque raison que ce soit ?» Ou encore, « Y a-t-il des limites à ce que l'homme peut faire en ce qui a trait au divorce ?» C'est pourquoi Jésus est remonté jusqu'à la Genèse en disant dans Matthieu 19, verset 4, Matthieu 19, verset 4 à 6, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux, pas les 15 ou 20, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Notez qu'en répondant de la sorte, Jésus n'a pas vraiment répondu à leurs questions à propos de possibles motifs de divorce. Il n'a fait que les ramener en arrière. En d'autres termes, leur question serait-ce un péché? Serait-ce acceptable? N'était pas la bonne. Cela ne vous donnerait pas la réponse. Jésus ajouta qu'il leur manquait un élément de compréhension, à savoir que Dieu a permis des choses dans l'Ancien Testament à cause de la dureté de leur cœur. Voyons-le au verset 7 et 8. Matthieu 19, versets 7 et 8. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En effet, au début, ce n'était pas dans les intentions de Dieu. Il l'a finalement toléré pour une nation charnelle. Et même lorsque j'ai lu cela, il y a bien des années, bien avant que nous ne comprenions mieux le sujet du divorce et du mariage, j'ai toujours pensé, comment notre nation serait-elle moins charnelle que les Juifs ou les Israélites à l'époque? En effet, de nos jours, nous vivons dans un monde charnel, et Dieu permet que ces choses se produisent pour qu'il y ait une sorte d'ordre, pour le bien des enfants, pour le bien de la propriété et la disposition de la propriété, etc. Il faut donc une façon de procéder. Il est vrai que dans notre société actuelle, on ne veut même plus se marier. La question du divorce est-elle alors encore d'actualité? Oh, vous pouvez vous séparer, et, je suppose, vous pouvez vous battre pour savoir qui possédera le chien et qui possédera le canapé et ce genre de choses. Mais Dieu voulait que cela se fasse de façon ordonnée, si cela devait se produire. Il savait qu'à cause de la dureté de leur cœur, cela allait se produire. Alors, il a mis une stipulation là-dedans, pour cette nation physique et charnelle. Et nous, devrions-nous avoir des normes plus élevées? Moïse, à cause de leur dureté de cœur, l'avait permis, mais au début, il n'en était pas ainsi. Poursuivons. Voyons ce que Jésus ajouta. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Notez ici cette précision de Jésus. Sauf pour cause d'immoralité sexuelle. Voyez alors leur réaction. Verset 10. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Cela montre simultanément leur état d'esprit. « Si nous ne pouvons pas divorcer et en épouser une autre, peut-être vaudrait-il mieux alors ne pas se marier. » Il serait bon de mettre ce récit de Matthieu, chapitre 19, en parallèle avec celui de Marc, mais je tiens à préciser que je ne veux pas que ce sermon devienne un sermon sur le divorce et le remariage. Ajoutons qu'il serait bien sûr indiqué de considérer également ce que 1 Corinthiens 7 dit sur ce même sujet. Il y a en effet un certain nombre de chapitres dont nous devons tenir compte pour avoir une vue d'ensemble. Ce à quoi je veux en venir, c'est que souvent, nous nous contentons de ne considérer que le strict minimum de ce qui est requis ou de ce que nous voulons, par opposition à ce que Dieu veut, et nous ne voyons pas le tableau d'ensemble de ce que Dieu requiert de nous. Voyez-vous, de nos jours, et c'était pareil du temps des Juifs de l'époque de Jésus, on pense que lorsqu'on fait certaines choses, on s'en trouvera bien. Je me souviens d'avoir lu un article à propos de Sandy Koufax, et j'en ai parlé dans le passé dans un de mes sermons. À une certaine époque, il avait refusé de procéder à l'ouverture des Jeux de la World Series. C'était, je crois, en 1965. Il était pourtant la personne toute désignée pour le faire. Mais voilà, cela aurait coïncidé avec le jour des expiations. Or, cela était hors de question pour lui. Il aurait à la rigueur accepté de le faire s'il s'était agi d'un sabbat hebdomadaire. Mais le jour des expiations, hors de question. C'est que, selon la pensée juive, si vous ne jeûnez pas ce jour-là, le jour des expiations, votre nom sera rayé du livre de vie. C'est aussi simple que ça. C'est donc sans hésitation aucune qu'il a coché cette case dans sa liste de choses à faire. Et c'est avec une fierté non dissimulée qu'il avait annoncé sa décision de respecter le jour des expiations. Cependant, ce n'est pas là l'approche que Dieu attend de nous. Nous ne pouvons pas nous contenter de ne faire que le strict minimum. Il nous faut donc faire tout ce que Dieu attend de nous. Et cela devra inclure la justice, la miséricorde, la foi, la compassion et toutes ces autres choses qu'il mentionne dans les Écritures. Voyons notamment quelques-unes de ces choses qui sont mentionnées dans Colossiens chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, autrement dit accepter l'instruction avec un esprit ouvert. de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un jour, quelqu'un m'a décrit la rencontre entre deux hommes qui avaient des opinions divergentes. Ils se disputaient entre eux, et un pasteur, qui avait été témoin de leur dispute, leur a finalement demandé s'ils allaient se pardonner l'un l'autre. Les deux hommes lui ont alors répondu presque simultanément « Jamais ». En entendant cela, le ministre a tout simplement refermé sa Bible et est parti. Il n'avait rien à ajouter. Pensez-y. Comment quelqu'un peut-il s'imaginer qu'il va être admis dans le royaume de Dieu s'il refuse obstinément de pardonner à quelqu'un d'autre ce qu'il lui a fait? D'autres textes bibliques traitent de ce même sujet. Dans Matthieu chapitre 6, la prière du Seigneur, Jésus le dit très clairement. Si nous sommes incapables de pardonner aux autres leurs péchés, Dieu ne nous pardonnera pas les nôtres. Et pourtant, les gens peuvent parfois devenir si endurcis, si amers envers quelqu'un d'autre, qu'ils refuseront de lui pardonner. C'est important, tout ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 3. Posons-nous la question. Observons-nous bien l'esprit, l'intention de la loi, telle qu'exprimée dans les 10 commandements? Méditons-nous là-dessus? Ayez de la compassion pour ceux de votre entourage. Montrez de la gentillesse envers autrui. Faites preuve d'humilité, de douceur, de longanimité ou de patience. Et comme on vient de le lire dans Colossiens chapitre 3, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Puis au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Notez maintenant ce que dit 1 Pierre chapitre 3, verset 8. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. En donnant ce sermon, je ne veux pas donner une mauvaise impression. On dénote vraiment beaucoup d'amour au sein du peuple de Dieu. Et, dans l'ensemble, j'ai l'impression que nous nous efforçons d'être courtois. Nous essayons de ne pas rendre le mal pour le mal. Je crois que nous faisons ces choses dans l'ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons aller au-delà du simple respect de la lettre de la loi. Nous ne pouvons pas nous contenter de simplement dresser une liste de choses à faire. Ok, j'ai prié, j'ai étudié, j'ai jeûné, j'ai été baptisé, je ne mange pas de viande impure, je fais ceci, je ne fais pas cela. Nous ne pouvons pas adopter une telle approche à l'égard du christianisme. Notre christianisme doit refléter une approche globale de la vie, de notre façon de penser et de considérer les choses. Cela requiert du temps. Une telle approche ne s'atteint pas instantanément. Quand je repense à ma vie, à certaines bêtises que j'ai faites, je suis heureux qu'elles soient loin dans le passé. Plus elles sont loin dans le passé, moins il reste de gens en vie qui pourraient s'en souvenir. Vous savez, nous commettons tous des erreurs. Et, fort heureusement, il y a beaucoup d'amour dans l'Église de Dieu. À nouveau, je le répète, il faut nous efforcer d'aller au-delà du simple respect des 10 commandements, de simplement parcourir notre liste des choses à faire ou à ne pas faire en disant « Bon, je n'ai pas d'autre Dieu sinon le vrai Dieu. Je n'adore pas d'idole. Je ne prends pas le nom de Dieu en vain. » Tout cela, nous devrions l'intégrer de façon indélébile dans notre caractère. Ainsi, Qu'en est-il d'avoir de la compassion les uns pour les autres? Vous savez, nous pouvons parfois faire preuve d'une grande froideur face aux difficultés de quelqu'un d'autre. Il nous faut apprendre à nous aimer comme des frères, à être tendres et courtois, ne pas rendre le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissons au contraire, car nous sommes appelés à cela afin d'hériter d'une bénédiction. Tournons-nous à présent vers Sophonie chapitre 2 au verset 3. Sophonie chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, ceux qui sont enseignables, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Notez ce qui peut en résulter. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ce sont là des caractéristiques très importantes que nous devons refléter. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer que le véritable christianisme, c'est plus que simplement parcourir une liste pour voir si on n'a rien oublié d'essentiel, si on est satisfait à la lettre de la loi. Hélas, je crains que trop souvent, c'est ainsi que les gens abordent la vie. Ils n'ont peut-être pas une liste en tant que telle, mais ils vont se dire « Bon, j'ai été baptisé, je suis dans l'Église depuis longtemps, je paie ma dîme, je fais tout cela, donc je fais l'affaire. » Non, ce qu'il faut, c'est de nous familiariser avec la pensée de Dieu. Pour terminer, allons à Colossiens chapitre 3 et voyons d'autres directives qui nous viennent de Dieu, ainsi que de Paul. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Avez-vous déjà médité là-dessus? Qu'est-ce que cela signifie de chercher les choses d'en haut? Cela ne vous amène-t-il pas à rechercher la pensée de Dieu sur tel ou tel sujet? C'est là une chose qui manque à notre société, en particulier à nos jeunes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont quitter l'Église. Comprenez que je ne parle pas ici de l'Église du Dieu vivant, mais du christianisme en général. Ainsi, plus de 30% de ceux qui quittent l'Église le font à cause de la position de l'Église par rapport au mouvement LGBTQ, quand celle-ci s'y opposera. On se rend compte que les gens sont tellement épris des voies de ce monde que cela prime sur la parole de Dieu. Et il est un fait que la parole de Dieu est très claire sur ce sujet. En effet, ce n'est pas l'Église, mais bien la parole de Dieu qui parle de ces sujets. Cela dit, pourquoi Dieu dit-il ces choses? Parce que ses actions et ses pratiques mènent à la mort, le malheur et la destruction, à la destruction de la société en général. Il y a quelques mois, M. Jonathan McNair a donné un sermon sur la masculinité et la féminité. Pourquoi il est important de comprendre que les hommes et les femmes sont différents. Ce sermon se trouve toujours sur notre site web. Vous voyez, il y a des raisons pour lesquelles Dieu fait ces choses. Ce n'est pas qu'il hait qui que ce soit. Souvent, lorsque je donne une conférence du monde de demain et que je mentionne certaines de ces choses, je vais me tourner vers les chapitres 11 et 12 de Matthieu, où il est question de ces Juifs, imbus de leur propre justice, qui vont trouver cela plus intolérable au moment de leur résurrection que Sodome et Gomorre et d'autres villes païennes. C'est que si ces dernières avaient vu les miracles accomplis par Christ, elles se seraient repenties depuis longtemps. Vous savez, ce n'est pas que les personnes qui nous côtoient soient plus mauvaises que le reste d'entre nous, mais elles ont adopté un comportement qui est mauvais. Témoin ce mouvement transgenre que je trouve absolument insensé. Le fait qu'un homme puisse participer à des compétitions sportives féminines, par exemple. Hélas, la jeune génération a tellement été endoctrinée qu'elle va adopter le point de vue de la personne transgenre et oublier tout le reste. Cela me fait penser à cette femme qui fait partie d'une sororité là-bas, au Wyoming. Note du traducteur. Une sororité est une sorte de fraternité réservée aux femmes. Cette membre d'une sororité voit donc arriver un homme qui mesure 1m80 et pèse 120 kilos. Un homme qui se prend pour une femme, ou du moins qui le prétend. Et le voilà qui reste là à regarder les femmes qui sont réunies là et qui se sentent mal à l'aise. Comble de l'ironie, ce sont elles qui se font maintenant critiquer pour leur attitude. C'est de la folie. Poursuivons notre lecture dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Oui, en passant par les eaux du baptême, nous avons fait mourir le vieil homme. C'est du moins l'image que nous en avons. Évidemment, le processus avait déjà commencé avant cela, mais c'en était la marque officielle. Versets 4 à 10. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Frères et sœurs, nous pouvons comprendre qu'il peut être sécurisant d'avoir des listes de points à accomplir. Ce n'est pas mauvais de nous rappeler ainsi ce qu'il nous faudra faire, y compris au besoin de prier et d'étudier. Cependant, nous devons reconnaître que le véritable christianisme ne se réduit pas à une liste où il y aura des points à cocher en disant « Bon, ça c'est fait, que reste-t-il d'autre à faire ?» Non, le véritable christianisme va bien au-delà, et j'espère que nous pourrons, au fur et à mesure que nous progressons, nous pénétrer de l'Esprit de Dieu. Il ne faut donc pas se contenter de regarder ce que l'on peut ou doit faire, autrement dit, s'en tenir à la lettre de la loi, mais de rechercher plutôt l'esprit et l'intention de la loi, tout en permettant à Christ de vivre sa vie en nous.